Et boum !
Les détricoteuses.
Elle m'évoque des sons soit imaginaires, soit qui existent pour de vrai.
Et c'est vrai, on est dans les détricoteuses.
Un espace ouvert et en évolution que je parcours.
Et nous allons écouter maintenant une création radiophonique.
C'est une parure que je porte, non pas pour me cacher, mais justement pour me révéler.
Et que c'est passible d'1 an de prison et de 15 000 euros d'amende.
Comme si elle parlait trop, alors que le temps moyen de discours d'une femme se situe entre 3 et 10 secondes.
Je me dis, mais c'est trop con de pas pouvoir le faire, juste parce que t'as des seins. Moi, je m'en fous de mes seins, quoi.
Non pas que votre avis soit pas intéressant, non, non. Il raconte plein de choses, votre avis.
Les Détricoteuses.
Une émission menstruelle
et participative.
Tous les premiers et troisièmes vendredis du mois.
À 19h sur JetFM 91.2.
C'est un attentat radiophonique.
Bonsoir, vous êtes dans les Détricoteuses sur JetFM 91.2. Bonne année à vous, chères Détricoteuses. Bonne année, Valentine. Bonne année, Marjo.
Salut, bonne année.
Bonne année, Marianne, qui n'est pas parmi nous, mais on le sait, tu nous écoutes. Bonne année, chères contributrices, XM et Cécile.
Oui, bonne année. Merci de nous accueillir.
Ouais.
Bonne année, Anaïs. Bonne année. Qui est au téléphone en direct de Saint-Brieuc.
Est-ce que tu nous entends, Anaïs ?
Bonne année à toutes.
Bonne année, Jet. Bonne année. Ça m'a toujours paru bizarre, cette expression, cette tradition. Bizarre, voire déplacée. Quand on voit ce monde, c'est étonnant de penser une seconde passer une bonne année. Vous croyez qu'à la Nouvelle-Orléans, les gens ont eu le temps de se souhaiter une bonne année avant de voir la voiture Bélier arriver ? Et vous pensez qu'à Mayotte, ils se sont souhaité une bonne année cette année ? Il y a quelqu'un qui a bien dû s'auto-souhaiter une bonne année, par contre, c'est Christelle Morançais. Est-ce que vous croyez que Bertrand Cantat avait souhaité une bonne année à Marie Trintignant avant de la tuer 8 mois plus tard, jour pour jour ? Et oui, c'était le 1er août 2003. 2003, il y a 22 ans. 22 ans, j'avais 20 ans. Il s'en est passé des choses en 22 ans. J'ai déménagé 10 fois, j'ai eu 1, 2, 3... Bon, on n'est pas là pour parler de moi, en fait. En tout cas, en 22 ans, il y a eu près de 3000 femmes qui sont mortes. J'ai trouvé des chiffres depuis 2006. On comptait peut-être pas avant, je ne sais pas. Donc 3000, une moyenne de 130 par an. Il y a eu une accalmie en 2023 avec moins de 100 femmes. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est reparti de plus belle l'année d'après. Le temps passe et pourtant, on stagne, voire on recule. En 2003, le Premier ministre s'appelait Raffarin. Il y a eu une réforme des retraites par François Fillon. Encore une. Bon, depuis, il a été condamné pour les emplois fictifs de Pénélope. Il y a parfois des bonnes nouvelles quand même dans ce bas monde. En 2003, c'était la guerre en Irak. 5 millions de personnes ont manifesté dans 600 villes du monde entier pour protester contre une intervention américaine imminente. Est-ce qu'on verrait ça encore aujourd'hui ? Quand on voit qu'ils sont une poignée à se rassembler chaque semaine en soutien à Gaza, je ne sais pas trop. En 2003, c'était aussi la fameuse canicule.
Ah ouais ?
La fameuse. Et c'était aussi l'année d'un rassemblement dans le Larzac pour les 30 ans du premier rassemblement de 1973. Un énorme rassemblement qui a réuni au moins 200 000, voire 300 000 selon les organisateurs, personnes, 300 000 personnes. Cet été, à comparaison, il y avait à peu près 5 000 personnes sur le village de l'eau contre le projet des méga-bassines, si on peut. Mais bon, en 2003, on ne disait pas que ces militants étaient des éco-terroristes, on les appelait des altermondialistes. Alors oui, ça me paraît bizarre de souhaiter une bonne année. Même s'il y a quand même quelques bonnes nouvelles, Sarkozy est sous bracelet électronique. Alors oui, alors à lui, je lui souhaite une bonne année. Vraiment,
pas encore, hein, il est parti aux Seychelles. Là. Il n'est pas encore sous bracelet.
Ça va venir. Et donc, forcément, on est quand même obligé de garder un peu espoir. Alors espérons quand même. 2003, vous l'aurez compris, c'est le mot, la date sur laquelle vous avez dû plancher. C'est la première fois qu'on a mis une date à l'honneur. Donc, on va voir comment ça vous a inspiré. Et on va commencer par toi, XM. Donc, tu n'as pas... On s'est dit qu'on y allait direct. Tu veux dire quelque chose avant ou on y va ?
Non, allons-y.
Parce que tu nous l'expliques dans ton sujet. Alors, c'est parti, on t'écoute.
Moi, c'est XM. Et d'habitude, vous entendez ma voix dans la mousson.
au cœur des récits oubliés et d'expérimentations sonores sur mes identités. Aujourd'hui, je réponds à l'appel des détricoteuses pour le sujet de janvier 2024, qui était 2003. Alors en vrai, j'avais mal lu, j'ai cru que c'était 2006. Je me disais aussi que ça faisait beaucoup de 6 pour une émission inclusive. Trop tard. J'avais déjà déterré mes archives MSN oubliées de 2006 et commencé à parler de cette période un peu particulière de l'adolescence quand j'ai compris que j'allais pas trop rentrer dans les cases cis et hétéro qu'on m'avait assignées. Cette création sonore s'appelle JTM et elle s'écoute mieux au casque. Bonne écoute! Tu voulais me dire quoi? Je te parlerai sérieusement cet été. C'est impossible qu'il me kiffe. Tu veux me plaquer, c'est ça? Ça va plus entre nous. C'est fini.
Je refuse de croire que je n'ai pas oublié.
Il m'a dit, si j'avais des millions, je serais millionnaire et comme j'ai que des centimes, je suis sentimentale.
Pourquoi je pense toujours à lui?
J'ai embrassé plein de garçons cette année. Et quelques filles aussi, mais ça compte pas. Mais comment, j'aimerais trop avoir un mec à embrasser. Elle m'a envoyé un texto juste pour me dire JTM. May 3, 21h43. Il m'a embrassé dans le cou. Les mecs, ils sont tous nuls. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Fatal Bazooka. Je suis totalement dépendante de toi. D'habitude, en amour, j'ai horreur de ça, mais toi, t'es différente. T'illumines mes journées. Ma pauvre, va falloir que je te console. J'ai qu'une envie, c'est t'embrasser. Je peux ? Il n'y a que toi qui m'as donné le sourire aujourd'hui. Elle m'a largué, je me sens trop mal. Elle a passé la journée à m'éviter. Je suis déprimée. J'arrive à son sourire cette nuit. Quand il m'a dit au revoir, il m'a prise dans ses bras. Elle viendra pas. Je suis déçue. J'attends ton rire si impatiemment. Le soleil revient peu à peu.
« Merci XM pour cette création dans l'univers sonore de 2003. Alors je pense qu'on a tous et toutes, enfin toutes, reconnu l'univers des mécènes.
Tout à fait. Mécène Messenger.
Il y a pas mal de choses à dire. Donc tu parles dans ton lancement d'archives qui ne viennent pas forcément de 2003, mais de 2006. Mais du coup, est-ce qu'elles viennent de tes journaux intimes ou de tes conversations que tu as pu remonter sur en mode numérique?
Alors, en fait, mes parents ont déménagé cette année. C'est un peu la jeunesse de ce projet. Et j'ai retrouvé mes journaux intimes de quand j'étais enfant. Et la proposition des détricoteuses avec 2003 est tombée à ce moment-là, en fait. Donc, je me suis dit, autant en faire quelque chose. C'était un peu l'excuse pour relire mes journaux intimes. Et je me suis rendu compte que dans mes journaux intimes, en fait, il y avait de la réécriture de ce que j'avais écrit et ce qu'on m'avait envoyé sur MSN. Donc, je faisais déjà un travail d'archive, en fait, quand j'avais 14 ans. Donc, voilà. J'avais complètement oublié, mais j'avais réécrit des petits mots et dont ces passages-là. Donc, c'est à la fois du journal intime, à la fois du MSN.
Et du coup, à travers le récit que tu nous livres, il y a quand même la question de la découverte de ta sexualité. Enfin, je ne sais pas si c'est une question, c'est découverte ou si finalement tu nous racontes comment tu l'as vécu, mais c'est peut-être à cette période-là que toi, tu as découvert que justement, tu ne correspondais pas aux normes cis hétéro qu'on attendait de toi. Tu avais quel âge à ce moment-là?
Tout à fait. Ben, là, j'avais 14 ans. En fait, je pense que je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais en fait, je pense que je l'ai toujours su. Ça n'a jamais été vraiment un secret pour moi-même. Mais c'est à ce moment-là, en tout cas, que j'ai commencé à expérimenter ma vie, ma sexualité, quoi. Donc, c'est là où j'ai commencé à dater, que ce soit des mecs ou des meufs. Et comme vous l'entendez au début, c'est comme si ça comptait pas quand c'était avec des filles. Alors ouais. Qu'en fait, j'avais des listes entières de toutes mes potes que j'avais embrassées, avec qui j'avais passé la nuit. Et voilà. et donc, en relisant ça, j'ai trouvé ça très drôle parce qu'il y a vraiment ce côté de la bisexualité, c'est juste pour rigoler, c'est pour s'amuser, quoi. Et en fait, 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, je la vis beaucoup mieux.
et donc, tu parles de travail d'archives. Peut-être que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais habituellement et quelle place ont les archives dans ton travail ?
Alors, l'archive et la mémoire, c'est vraiment le cœur de ce que je fais, que ce soit en création sonore ou juste en création artistique contemporaine. Je travaille beaucoup sur la question de la diaspora vietnamienne. Donc, mon père est vietnamien, ma mère est française. Je travaille pas mal sur la question du métissage et de ce qu'on se transmet de génération en génération. Et depuis quelques années, j'ai mis la main sur des archives familiales. J'ai aussi connecté avec pas mal de personnes de la diaspora viet. Et donc, on met en commun ces archives et on en fait des créations pour un peu se les réapproprier. Et donc, sur JetFM, depuis un an et demi que je suis là et que je crée La Mousson, je travaille à partir de ça, en fait, à partir des archives.
Et toi, d'un point de vue professionnel, tu fais aussi de la création en parallèle, tu fais de la linogravure.
Tout à fait.
Et quelle place a le sonore? Enfin, comment c'est venu la création sonore dans ton parcours? Parce que c'est venu un petit peu tard, j'ai l'impression, par rapport à ta pratique artistique habituelle.
Ouais, carrément, c'est une bonne question. Le son, j'ai commencé parce que je trouvais ça important de refaire des archives et de trouver un moyen d'en faire sans que ça prenne trop de place en termes de matériel. Et donc, je me suis dit qu'un petit zoom dans la poche, c'était quand même assez pratique. Et j'ai eu la chance de participer à un stage à la cassette à Aubervilliers, qui a déménagé depuis, mais voilà. Et donc, j'ai passé une semaine là-bas pour faire de la création sonore. Et je suis partie au Vietnam quelques mois après. Et c'est vraiment là où j'ai commencé à enregistrer. En fait, je n'avais jamais vraiment enregistré quoi que ce soit avant. J'en ai fait un journal intime sonore qui a été diffusé sur Jet l'année dernière. Et puis ensuite, on m'a proposé une résidence ici. Puis j'ai commencé à faire de la créa plus musicale, ambiante, machin, tout ça. Et ça c'est venu tout seul.
Et c'est quoi, quand tu pratiques la linogravure, est-ce que tu es aussi autour de cette question de l'identité, de la mémoire et tout? Est-ce que c'est des thèmes que tu travailles aussi ou c'est vraiment
lié
au sonore?
Non, c'est aussi un autre médium sur lequel je travaille l'archive, la mémoire, l'identité. Et donc, ça vient, en gros, je fais ma thérapie, hein, soyons honnêtes, mais en gros, ça vient parler des questions queer, des questions de diaspora, des questions d'héritage. Et après, je fais aussi des gravures où il y a écrit Darmanin démission, mais c'est...
Ouais. Ça, c'est normal.
C'est la transmission. C'est la base. C'est ce que tu as envie de transmettre au monde. Cécile, j'ai vu qu'il y a plein de choses qui t'ont amusée un peu quand tu écoutais le sujet. Je ne sais pas si tu voulais réagir.
Ouais, bah, j'ai trouvé ça hyper... Enfin, j'ai trouvé ça très, très embarquant, quoi. J'ai envie que ça dure encore.
Merci beaucoup.
Moi, je suis toujours fascinée. C'est con, hein, ce que je veux dire. Je suis peut-être, parce que je suis un peu, peut-être un peu plus âgée, mais je suis fascinée par la rapidité de la phrase. chaque fois, c'est un son. Je me dis, mais ça, c'est un son qui, moi, correspond pas à ma génération. Et du coup, ça me fait délirer parce que je me dis, tiens, c'est vraiment un truc qui marque notre époque, cette histoire d'écran, de petits trucs sonores, des petits doudoudoung, tu vois. Et je me dis, tiens, c'est marrant. C'est, voilà, moi, je débarque dans la création sonore, ça m'intéresse à fond, mais je trouve ça drôle. Voilà.
Même MSN, parce que MSN, c'était les premiers... chat voilà, sur écran et tout, et qui a quand même vite disparu, remplacé par plein d'autres choses. Ouais. Mais ça marque aussi vraiment.
À 14 ans, nous, on faisait pas comme ça. Hein.
Ah, nous, on n'avait pas ça. Hein.
Même
nous, c'était des lettres écrites, pliées.
Ah, vous avez 100 ans.
C'est ça, nous.
Bah, c'est marrant parce que...
Vous avez 100 ans.
Tout à l'heure, je parlais d'univers sonore. Direct, quand on entend le Wiz, à un moment, le doulou, ouais. Je dis, ah ouais, ça, c'est le Wiz de MSN et tout. Ouais. Ça m'a rappelé, mais pareil, toute mon adolescence, je passais des soirées entières à chatter sur MSN. Je ne sais pas ce que je faisais d'ailleurs, mais... Et oui, et c'est vrai que c'est le moment où toute la... question amoureuse, en fait, elle est prégnante, mais dans tout, en fait, dans toutes les conversations, dans tout ce qu'on fait. Et
on parlait que de ça. Hein.
Oui.
Ouais. Ça change vachement l'approche, quand même. Hein. Ouais. Que ça soit sur MSN, la drague, c'est pas pareil. Hein.
Ah bah oui.
Par rapport à avant, tu veux dire?
Bah ouais, ouais. Les petits rendez-vous sous le préau,
ouais, et carrément.
C'est pas pareil.
Des lettres,
petits mots dans la classe et tout.
Ouais, puis je crois qu'il y avait vraiment ce truc où on se parlait pas pendant toute la journée, et puis le soir, on se draguait, en fait. Ça nous donnait un peu une excuse pour pas vraiment s'approcher IRL, comme on dit.
Après, nous, c'était pareil. Là, je pense à Damien, si tu m'entends, en quatrième. On se parlait pas non plus. Et en fait, on faisait genre, on s'intéresse pas. Puis en fait, on s'écrivait des petits... Finalement, c'était pas si différent.
Des petits mots, quoi, sous la chaise.
Et moi, par contre, je me rappelle aussi, moi, avec mes copines, on s'écrivait des lettres le soir, alors qu'on s'était vu toute la journée, quand même, au collège. On se réécrivait des lettres qu'on se donnait le lendemain si on n'était pas forcément dans la même classe ou quoi. Mais je me dis, si on avait eu les réseaux sociaux et tout à cette époque-là, mais je pense, moi, j'aurais été... complètement accro, quoi.
Ah, mais c'est clair. Mais bien sûr. On aurait fait des films. Moi, je me dis, on aurait fait des films. On aurait arrêté de faire plein de trucs. Ça aurait été fou.
Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas juger les ados quand ils sont sur leur Snap ou quoi. Mais moi, je me souviens qu'on faisait des mots dans les agendas aussi. Le truc débile.
Carrément. Sur les trousses.
Ça existe peut-être encore.
Avec le blanco.
J'espère.
Ouais, mais c'est surtout, on se disait rien, mais c'était ce truc de « Ah, elle t'a pas mis un mot dans ton agenda ». Enfin, il y avait un espèce de truc de validation, quoi. Si t'avais le mot dans l'agenda, il y avait un truc de acté de « Tu fais partie de l'entourage de la personne », tout ça. Enfin, il y avait des espèces de codes sociaux comme ça au collège. Je sais pas si ça existe encore, ça. Mais oui, je pense. On parle comme des...
Tous les ados qui nous écoutent,
la génération Alpha, s'il vous plaît.
Appelez au 0228 25 23 88.
Si vous avez une dernière je sais pas si c'est ça, parce que c'est la remarque radio,
mais... ou le téléphone, peut-être qu'ils connaissent pas les fixes.
Oui, moi j'ai juste la dernière question. Tu utilises pas mal le reverse dans ton montage. Comment tu le voyais? C'était remonter le temps. Enfin, pourquoi tu l'as utilisé?
Alors 2006, c'était la saison 2 de Lost.
Ah!
Donc, dans Lost, je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais pas si vous avez regardé, il y a des petites séquences où, en fait, il y a du reverse, notamment un des enfants là, qui parle en reverse. Et voilà, je me suis dit que ça faisait un petit clin d'œil à la pop culture de l'époque aussi.
Ah, trop bien. Donc, pour les aficionados qui nous écoutent, je ne sais pas si ça veut dire ça. Bon, pour les gens qui ne connaissent pas, reverse, c'est les mots à l'envers, comme ça. On a l'impression que c'est du novlangue, enfin, un langage inventé.
On se dit que moi, je me suis imaginé qu'il y avait des gens à l'étranger avec qui tu parlais.
Oh, waouh, intéressant. J'adore.
Ah, moi, ça m'a fait Twin Peaks direct.
Ah, ouais. Je suis en plein dedans.
Je ne sais pas de quand ça date, Twin Peaks. Ouais.
Merci beaucoup, XM.
Merci à vous.
Merci. On va maintenant écouter une proposition d'Anaïs qui est toujours avec nous, Anaïs.
Oui, toujours, je vous entends.
Formidable. En direct de Saint-Brieuc. Eh bien, ça s'appelle Les Conteuses. On écoute et on en parle après.
2003, c'est une année importante pour moi. Déjà, j'ai 20 ans, donc j'ai pas encore les dents qui se déchaussent et la nécessité d'utiliser des brossettes interdentaires. J'étudie dans une filière qui ne me donnera probablement pas de boulot, mais qui m'intéresse. Je travaille aussi, dans un restaurant, et le salaire me permet de faire mes premiers voyages. Mais l'année 2003, elle est surtout importante pour un certain soir de mai. Je me rends chez un ami pour une soirée. À part lui, je ne connais personne. Mais j'y rencontre Julien. C'est bien le mois de mai pour tomber amoureux. Voici le mois de mai où les fleurs topent. Voici le mois de mai où les fleurs topent. On a résisté aux 84 saisons qui ont suivi. Je vous vois, vous avez peur que je vous fasse le coup du fameux « il était une fois ». Et c'est vrai, est-ce que, dans une émission qui interroge les normes de genre, je peux me permettre une telle référence ? Parce que le loup dans les bois, le baiser du prince, les marâtres... dans les contes, en fait, quand elles ne sont pas repoussantes ou tyranniques, les femmes sont presque toujours représentées faibles et passives. Mais... les contes, ce sont des histoires. Et les histoires, elles nous façonnent. Elles façonnent nos vies, nos familles, nos enfances, nos récits collectifs. Je pense aussi à tout ce qui n'est pas dit et qu'il faut deviner entre les lignes. Je pense, avec tristesse, à celles qui considèrent ne pas avoir d'histoire valable. Car soyons clairs, tout a déjà été écrit. Donc la question n'est pas d'avoir une histoire originale, mais de décider de comment on raconte. Comment on se raconte. Je pense à ce qui rend la vie belle, ce moment où on prend le crayon, où l'on arrête de vouloir correspondre et où l'on écrit son histoire comme on l'entend. C'est une grande liberté qui vient avec le temps. Je crois que c'est ce dont il s'agit dans les deux histoires que vous allez entendre. Deux femmes ont revisité un moment dans leur année 2003. Deux histoires de liberté acquises au fil des années.
Moi qui apprends que je viens d'avoir mon bac. Il était 2003. Une île au milieu de la mer. Une plage, une falaise, un village. Et sur cette île, une jeune fille en rose. Cette jeune fille en rose raccroche son téléphone. Elle range la voix de sa mère dans sa poche et descend du bateau sur lequel elle se reposait. Elle vient d'apprendre qu'elle a la vie devant elle. Elle marche tout en haut du village et là, elle entre dans un café. En italien, elle commande à boire un breuvage noir microscopique et très amer. Il lui tord les boyaux et elle s'en régale. Gonflée de confiance en elle, elle le boit d'une seule traite. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que les rails sont tout tracés et que pour le moment, elle ne peut pas oser. Il lui faudra cheminer encore 20 ans avant de savoir quoi faire de tout elle.
Il était une fois un girafon. Il vivait dans une maison miniature, entourée de grands immeubles, eux-mêmes entourés de grandes maisons, et d'un jardin magique à partager. Il devait rendre sa maison habitable, car tout y était insalubre. Il ne mesurait pas tout le travail à exécuter, et tant mieux. Il eut bien du courage à tout casser, ranger, puis bâtir à son imagination. Ses grandes pattes étaient très adroites, mais il n'était pas fait pour porter de si lourdes charges. Il vivait avec un certain lézard cosmique, mais comprit bien vite que celui-ci ne l'aiderait pas. Alors, Iel prit le temps de se regarder dans un miroir et se remit à danser. Son costume était bien trop encombrant. Iel le fit fondre en courant chaque jour et prit sa place de femme à bras le corps. Elle bâtit un temple à la joie. Elle tissa une toile d'amitié, puis rencontrant un requin, se vêtit d'un costume de baleine. Tandis qu'elle observait son ventre s'arrondir, son requin croquait jusqu'au plus petit filament de ses racines. Elle ne voyait rien et se déployait. Elle dansait et créait tant et tant de magie qu'il finit par se moquer de son inconscience. La faim insatiable de ce requin la tourmentait parfois. Les monstroplantes aussi étaient là, qui achevèrent de la briser. La baleine était en cage. Ils l'obligèrent à rester seule, à se nourrir de pilules rouges. Parfois la pilule changeait de couleur, parfois elle était énorme et il fallait tout avaler en une seule gorgée. Ses plus beaux rêves étaient détruits, ses racines inhibées. Tout nourrissait les larmes de la baleine. Elle mit du temps à trouver la porte de sortie de cet infernal destructeur. Ce qui la faisait rêver était interdit. Elle ne pouvait pas demander, questionner. Alors elle se relia. Les champignons devinrent ses alliés. Elle remercia sa fortune grâce à son achat de maison 2003 et son travail à rendre sa maison habitable. Et puis elle remercia tous ceux qui la rendaient plus forte. Ses pensées, ses amis. Le combat fut acharné. Les requins voulaient tout déchirer. Puis elle comprit que seule la douceur et l'éloignement pouvaient lui rendre sa liberté. Alors, depuis, elle marche le chemin, guidée par celui qui la requina pour protéger son baleineau. Un requin étant le meilleur cadre pour affirmer sa douceur, pour affirmer sa féminité, observer ses ombres et suivre sa lumière pour oser briller. Un pas après l'autre. Chaque jour, elle pouvait vivre parmi les requins car elle avait su tisser sa toile. Merci à Sylvain, ce lézard cosmique, rencontré en 2003 par hasard, qui m'a permis d'avoir les moyens d'être moi-même.
Merci beaucoup Anaïs pour ces jolis contes. Je crois savoir que c'est ta toute première création sonore en plus.
Effectivement, c'est une grande première et merci à vous pour la confiance accordée dans cet exercice-là.
C'est très joli, on est ravis de t'accueillir et de t'entendre. Alors, pour les petites... Tu nous partages des contes, des histoires de liberté acquise. On devine une histoire d'émancipation et peut-être une deuxième histoire peut-être de relations toxiques, mais il y a une part de mystère et d'énigme. Est-ce que tu peux nous dire, toi, pourquoi tu avais envie de partager ces histoires-là spécifiquement dans ton sujet ?
En fait, comme je disais, la confiance dont vous témoignez en fait en laissant la place à des personnes qui n'ont jamais eu d'expérience radiophonique, on va dire, j'ai essayé de la garder tout au long du développement de ce projet. Et donc, je suis partie sur ce texte qu'on entend en introduction. Et ensuite, je me suis dit, voilà, il faut que j'aille voir comment ça résonne, cette histoire d'histoire. Justement, comment ça résonne auprès d'autres personnes, d'autres femmes en l'occurrence. Mmh. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer Katia et puis Pauline. J'ai eu envie de les partager parce que, certes, elles ont cette part un peu énigmatique, c'est aussi ça les histoires, je pense. C'est qu'on peut, on y trouve et on y glane ce qu'on a besoin. Ce dont on a besoin peut-être sur le moment, et que cette part de mystère, elle peut aussi faire écho, ou en tout cas, elle ça forme aussi une sorte de bain qui peut être intéressant.
Oui, complètement. C'est très agréable à entendre, et en plus, et on n'a pas forcément besoin de tout comprendre. Hein. Enfin, c'est pas... On comprend des choses en plus, hein. On ne comprend pas rien du tout. et du coup, donc, c'est pas des amis à toi, enfin, c'est pas des histoires que tu les as rencontrées spécifiquement pour le projet de création sonore.
Alors, je connais Pauline, la première personne qu'on entend depuis un peu moins d'un an, et j'ai partagé avec elle autour de cette idée, et puis on a échangé beaucoup ensemble, et ensuite elle m'a renvoyé effectivement vers aussi celle qu'on appellera la grande girafe, et c'était donc aussi une histoire de rencontre. C'est pour ça que je dis que le terme confiance est important, c'est qu'en fait j'ai fait confiance et j'ai eu raison, puisque les rencontres se sont faites ensuite et se sont enchaînées.
Et pourquoi, tu peux nous dire peut-être, parce que tu l'évoques un peu en introduction, mais pourquoi, qu'est-ce qui t'intéressait dans la forme conte, qu'est-ce que tu as comme lien particulier avec la fiction peut-être aussi ?
Alors, la fiction, c'est un besoin, en fait, que je nourris depuis toujours avec les livres et puis aussi maintenant avec le cinéma et également les podcasts. Aujourd'hui, ça ouvre encore une autre forme, une formidable manne de fiction. Donc ça, c'est un besoin, en fait, tout simplement. Et pourquoi le conte, là, c'est parce que, en fait, il y a quand même une structure, en général. Il y a un début, il y a ce fameux « il était une fois », il y a, voilà, on pose un peu le décor avec des personnages qui peuvent être un peu caractérisés, et puis il leur arrive des mésaventures, et à la fin, il y a une forme de morale. Donc c'est un peu classique, mais justement, c'est intéressant de voir comment on arrive à rentrer là-dedans et ce qu'on fait de cette structure, comment on raconte ça, quoi.
Ouais, puisque tu, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure aussi, où il y a une part d'énigme et tout, c'est aussi, on se fait, même nos propres réalités sont des fictions. Et moi, ça me fait penser à l'espèce fabulatrice de Nancy Huston. Bon. Enfin, bon, le côté père, tout le monde me regarde avec des yeux écarquillés.
Peux-tu expliquer ta référence?
Oui. Non, mais c'est le côté, c'est le côté même notre propre réalité est une fiction, en fait. Enfin, il y a rien d'autre qui sort de la fiction. Donc, en fait, la manière dont elle se raconte, c'est presque plus intéressant d'écouter l'histoire, la manière dont elle se raconte, plutôt que d'en parler. Ouais.
Tout à fait. En fait, c'est à ça que ça. Mais merci pour cette référence, Valentine, parce que justement, enfin, en fait, c'est à ça qu'on arrive. C'est-à-dire que la question, c'est pas tant qu'est-ce qui est raconté que comment on le raconte. Enfin, dans nos vies en général, c'est ça. Il y a un moment donné, par exemple, aussi, j'évoque les personnes qui pensent qu'ils n'ont pas d'histoire valable. Et autour de moi, des fois, je vois des gens qui vont pas correspondre aux normes, voilà, à tout un tas de choses, et qui du coup se pensent un peu à côté, alors qu'en fait, ils développent des tas de choses hyper intéressantes et singulières, et qu'en fait, voilà, on peut raconter ça comme ça aussi. Donc voilà, c'est.
Elles ont, ça leur a plu à tes amies collaboratrices de podcast?
Oui, ça leur a beaucoup plu, et c'est ça qui était chouette aussi, c'était de voir qu'il y avait un mouvement d'aller-retour, une sorte de bouillon, et que, par exemple, Pauline, au départ, m'a dit « je ne vais pas participer parce que je pense qu'il ne m'est rien arrivé de plus en 2003 », donc en fait, c'est en la sollicitant que tout à coup, elle s'est dit « ben si, en fait, il y a eu ce moment-là ». Et puis pour la grande girafe, ça lui a aussi beaucoup plu. Elle est déjà un petit peu plus dans l'écriture, mais voilà. C'est. Et puis il y a également Lucille qui a participé, que j'ai pas pu mettre dans le montage parce que 7 minutes c'est trop court. Mais toutes, en fait, ça leur a plu de faire cet exercice-là, donc c'était chouette.
Et toi alors?
Eh oui, j'allais poser la même question, ton compte à toi. Ah oui, non, toi, c'était pas ça la question, Marjolaine. Pardon.
Toi, est-ce que ça t'a plu? Moi, c'était
oui,
ça la question.
Pardon.
Moi, ça m'a beaucoup plu. Ça n'a pas été facile. En fait, quand j'ai vu la liste des thèmes pour la saison à venir, 2003 m'a paru une évidence. Donc, je me suis dit, bon, elles font confiance à des néophytes. Je fais confiance à l'idée que de ce thème-là, j'aurais quelque chose à tirer. Et puis ensuite, j'ai pu faire confiance à ces deux contributrices. Et donc ça, voilà, il y a eu des petits moments un peu plus compliqués où j'avais l'impression d'avoir tiré plusieurs fils et que je savais pas trop comment raccorder ça. Voilà. Et puis il y a aussi, je me suis dit, mais c'est peut-être aussi très ou trop énigmatique les histoires. Les gens vont vraiment pas comprendre. Donc j'ai eu quand même des moments de doute.
Tu t'es fait confiance toi, en fait. C'est ça aussi, je trouve, qui ressort. Je trouve ça trop cool que tu te sois lancée.
Bah merci.
C'est très chouette.
Vous me reverrez, hein, parce qu'on peut
oui
aussi prendre.
Ah oui, tu es la bienvenue. Et ça arrive souvent que les gens aient envie de refaire une deuxième création après la première, figure-toi. Merci beaucoup Anaïs, nous devons clôturer notre échange, mais tu restes avec nous au téléphone.
Tout à fait, je continue d'écouter avec attention les autres contributions.
Ah, et tu vas pouvoir introduire la musique que tu as choisie.
On va écouter maintenant.
On va écouter maintenant.
Ah super, c'est la super Lucie Antune, ou Antunes, je ne sais jamais trop comment on dit. Et si c'est le morceau dont j'avais parlé, c'est Vous êtes parfaite.
Oui. C'est parti.
Vous êtes parfait, vous êtes parfaite, 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 vous.
Nous revoilà à l'antenne des détricoteuses. Et pour la première fois mondialement dans les détricoteuses, nous avons une création live. Enfin, non, c'est peut-être pas tout à fait la première fois. T'avais fait un truc une fois, Marjo, je pense. Mais quand même.
Bah oui, bah, c'est vrai que je me suis pas lancée dans un truc. Bon. Compliqué techniquement parce que j'ai pas.
Ah bah pour toi,
pas,
parce que pour plein de monde, ça serait très.
Bien sûr.
Ça serait compliqué techniquement ce que tu vas faire. Mais...
Ah bon ?
Bah oui.
Bon,
bah
d'avoir une guitare déjà.
Faire du live, c'est super.
C'est bien. Donc j'ai un texte. Bon, je vous lis mon texte.
Ah bah allez, c'est parti, on t'écoute.
Alors donc 2003, pour moi, c'est l'année de l'énorme regroupement dont tu parlais d'ailleurs, Julie, altermondialiste du Larzac, près de Millau. À l'époque, les slogans, parmi d'autres, c'était d'autres mondes sont possibles et le monde n'est pas une marchandise. Moi, j'allais avoir 30 ans, je faisais partie d'un groupe de rock alternatif assez connu, les Suprêmes d'Inde. Et je ne peux pas vraiment dire que j'étais engagée féministe, mais moi, ce qui m'importait, et c'est toujours le cas, c'était de susciter un sentiment d'ouverture et de libération pour tout le monde, ce qui revient peut-être au même. On jouait vers 17h, on avait traversé la France pour arriver sur le site après 8 heures de bouchons gigantesques. Ils attendaient 10 000 personnes et on était, bon, moi je préfère dire hein, qu'on était... à peu près 350 000.
Yeah.
Avec nous, on avait emmené Elisa.
Moi, je me souviendrai toujours de cette marée humaine qu'il y avait autour du bus et vous descendiez à tour de rôle avec le chauffeur qui était là, qui essayait de ne pas écraser des gens pour ouvrir la foule en disant « Mais nous, on a un concert qui démarre dans, je ne sais pas combien de temps, dans une heure, dans deux heures. » Et moi, j'étais dans un état de sidération. C'était complètement dingo d'arriver dans cet endroit. C'était la planète Mars, au milieu de nulle part, avec des milliers de personnes, quoi. C'était dingue. Je me rappelle quand on est arrivé, c'était... Comment il s'appelle, le groupe qui était juste avant vous, là ? Un groupe de mecs, rock français, je ne sais plus, bref.
Donc, tout est allé super vite. C'était vertigineux comme dans un rêve et on est monté sur scène pour 50 minutes de folie.
Puis après, le concert aussi. Et c'est pareil, il y avait un monde de dingue. Et là, il y a un gars qui me chope, parce que j'étais toute seule là, côté loge, quoi. Et il me dit, tu viens avec moi, on va sur la tour qui était en face de la scène. Et donc, je monte en haut de la tour, là, en métal. Et là, c'était complètement dingue. Il y avait des gens à perte de vue, quoi. Et puis vous, tout petit, sur la scène, c'était incroyable.
Voilà, donc après le concert, moi, j'ai réalisé ce qui venait de nous arriver. Et en fait, j'ai vraiment eu l'impression que quand je chantais, j'avais pu regarder chaque personne, donc les 350 000 personnes, dans les yeux. C'était un énorme moment, un grand moment d'éternité. Wow. On était tous ensemble et dans la même direction. Après, on a traîné sur le site pendant la soirée, toute la journée du lendemain, pour participer à des débats sous des tentes à 40 degrés sans eau, voir des concerts et surtout rencontrer plein de gens. Parce que effectivement, c'était l'année de la canicule. Et le soir, eh ben, il y a eu le discours de José Bové. Moi, j'étais avec mon frère. Il faisait de la batterie dans mon groupe à l'époque. Et on a regardé ce discours. Et c'était tellement beau qu'on a tous pleuré.
Ce soir, nous sommes plus de 350 000 réunis. Jamais un tel rassemblement n'a eu lieu. Jamais autant de personnes, d'hommes et de femmes, se sont réunis ensemble pour dire qu'ils n'acceptaient plus ce monde d'injustice, ce monde de misère dans lequel on veut nous faire vivre. Aujourd'hui, c'est un grand nom qui nous réunit. Nous refusons. Nous sommes ici pour dire que ce n'est pas la marchandisation du monde qui va triompher, mais bien une autre vision du monde, pas une vision unique. Ce que nous voulons aujourd'hui, ce n'est pas simplement qu'il y ait un autre monde qui soit possible, mais c'est qu'il y ait énormément d'autres mondes qui soient possibles. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous ne savons pas ce qui se passe. C'est à nous tous de construire les solidarités. Parce que si nous construisons les solidarités, eh bien nous pourrons empêcher les guerres. Alors ce soir, nous avons un grand espoir. nous avons un grand espoir parce que jamais nous n'avons réuni autant de monde. Et si c'est ici que nous les réunissons, c'est pas hasard. Tout à l'heure, les deux paysans du Larzac qui vous ont parlé nous ont raconté qu'il y a 30 ans, une centaine de paysans se sont levés pour dire non à l'armée. Alors que ces 100 paysans sont capables de le faire, eh bien les 350 000 personnes qui sont ici peuvent le faire aussi. Ce soir, c'est l'espoir qui naît. C'est un espoir qui ne doit pas s'éteindre. Le mouvement social est rentré en résistance. Parce qu'aujourd'hui, notre force, ce ne sont pas les armes. Aujourd'hui, notre force, c'est notre capacité à résister et à dire non. Notre force, c'est la force des faibles. Et c'est parce que nous sommes faibles que nous allons triompher.
Voilà. Donc, on est rentré. Moi, j'ai mis au moins 4 ans avant de pouvoir retourner dans un supermarché. Et j'ai vraiment cru qu'on avait changé le monde en 3 jours. On était tellement ensemble et purs. Alors, ce qui me bouleverse aujourd'hui, c'est que 20 ans après, je me sens plus étriquée, mon cœur un peu plus serré. J'ai changé mon monde chaque jour en injectant de la poésie, de l'intelligence et de la compréhension. Mais des fois, j'ai l'impression que ça, c'est des gros mots. Et je sais que les 350 000 personnes qui étaient là-bas sont encore là et qu'on a grossi les rangs. Donc je suis peut-être un peu naïve, mais j'ai confiance en nous et j'adore la vie. Voilà, j'ai écrit une chanson juste après toutes ces conneries de Trump, enfin toutes ces histoires autour du RN, tout ça, voir qu'il y a autant de teubés et de connards présents dans nos vies. Et voilà, j'ai écrit cette chanson pour ça. Je me lèverai très tard, reposé littéraire, dénué de projets, les cheveux en pétard, le jardin sera fou. Et avec des bambous, on aidera la marrante à grimper en hauteur. J'emmènerai des gosses, gratter dans les rivières, rechercher les fossiles, jouer à Robinson. On tombera tous amoureux d'individus farfelus, rencontrés par hasard au bar du festival. Ces connards, ces quebés, ils vont s'habituer. Ces connards, ces teubés, ils vont s'habituer. Ces connards, ces teubés, ils vont s'habituer. Ces connards, ces teubés, ils vont s'habituer. Cuisinons dans l'école, dansons sur le trottoir, même la nuit en semaine, avec des inconnus, désert des super-rues. Ramasser les orties, laisser la porte ouverte, débloquer les verrous, aimer s'émanciper, préférer les bisous, décider de descendre de la roue du hamster, et il s'étonne. À brasser dans la joie des choses inutiles, sans sécu ni barrière. Ces connards, ces teubés, ils vont s'habituer. 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 Les bébés ont grandi, on engage les corps, on s'écoute, on avance, on se pardonne encore. Ma voiture est ouverte, mal garée sur la place, la clé sur le compteur, tu la prends quand tu veux. Et connards, et teubés, et tu vas t'habituer. Et connard et teubé, tu la prends quand tu veux. Et connard et teubé, tu la prends quand tu veux. Et connard et teubé, tu la prends quand tu veux. Et connard, ces quebés, ils vont s'habituer. Ces connards, ces teubés, ils vont s'habituer. Ces connards, ces teubés, ils vont s'habituer. Ces connards, ces teubés, ils vont s'habituer. Bon, c'est le live, quoi. Voilà. Voilà.
C'était la première fois que tu l'as chantée.
Oui, c'est la première fois que j'ai chanté, la première fois que j'ai joué. Mais écoutez,
bravo,
c'est une bonne base.
Ah, ce petit refrain là, j'aime beaucoup.
Ce petit refrain.
Ah oui, je suis d'accord.
Bon, José.
Voilà, je voulais remercier avant tout la radio Larzac qui est partie dans ses archives pour retrouver ça.
C'était pas toi qui l'avais dans tes archives,
ouais,
à toi.
Ouais, non, c'est pas moi. Et c'est Antoine Chao qui m'a aidé pour les montages de son et qui est allé justement rechercher ça. Donc je les remercie tous les deux. Enfin, je remercie Antoine et la radio Larzac.
Génial, on leur enverra.
Ouais, qui nous écouteront peut-être ce soir. Donc voilà, on a fait un montage parce que c'était assez long, le discours de Beauvais. on a pris les morceaux, mais c'était vrai. Enfin, de le réécouter, moi, ça a replongé dans l'émotion. Puis je me dis, c'est ça, 20 ans plus tard.
Ah ouais.
C'est la loose totale.
Ah, non, mais c'est ça.
C'est ça qui est vachement dur, je trouve.
Mais ce que je trouve intéressant dans cet archive, c'est qu'on se rend compte que, bon, déjà, il a la voix un peu cassée. Je pense que c'est dû à l'émotion. Mais il n'est pas du tout dans quelque chose de. Il a quand même une foule devant lui. Oui. La plupart des gens qui font des discours sont dans un espèce de truc hyper hurlant, imposant et tout. Et lui, il est là, il parle assez posément en vrai, ouais, pour ce qu'il est en train de dire. Et du coup, je trouve que c'est aux antipodes de certains hommes politiques que nous connaissons aujourd'hui. Ils parlent de leur projet.
Ouais, non, mais là, c'était. Ben, faut dire que c'était. Enfin, je pense que le climat aussi, c'était la troisième journée de ce rassemblement. C'était ses enfants. Enfin, je veux dire, c'était un truc hyper familial au départ. C'est ça qui était fou, c'est qu'ils attendaient 10 000 personnes, soit, mais au départ, c'était un truc de famille, quoi. C'était lui, ses enfants, enfin, c'était toute une bande de joyeux paysans, quoi. Et donc, ils se sont fait complètement dépasser, mais je pense que l'état d'esprit, c'était plutôt un truc assez cool au départ.
En tout cas, ouais, c'est quand tu vois cette fin d'année 2024,
c'est l'enfer.
C'est quand même hyper triste. Enfin, c'est génial d'entendre ça, mais... Ouais. C'est quand même dur, tu vois, tu restes avec de la joie et tout, c'est dur quand même de garder un peu espoir quand même.
Ouais, c'est ça, c'est que moi, vraiment, nous, à l'époque, on était à fond, on faisait un cri, je me souviens, tous les jours à 19h, on allait devant les mairies, on gueulait, on faisait « waouh ». Comme ça a duré des mois, mais franchement, c'est génial.
Non.
Mais si, mais on avait, enfin, c'est vrai qu'à l'époque, on avait l'impression qu'on avait vraiment, on allait vraiment changer le monde, mais on était hyper, hyper sûrs de nous, quoi.
Bon, et sinon, Cécile, ça fait quoi de jouer devant 350 000 personnes ?
Bah, c'est énorme, hein. Franchement, c'est complètement dingue. Parce que... Mais cette histoire des yeux, c'est vrai. Et en plus, moi, je suis allée voir Johnny Hallyday, c'est con. Hein. Mais j'ai vu Johnny Hallyday une fois. On était énorme, énormément, je ne sais pas, peut-être 100 000. Et j'ai eu l'impression qu'il me regardait. Et je me suis dit, putain, mais j'ai déjà vécu ça, moi, mais de l'autre côté. Ouais, je me suis dit, mais c'est énorme. Quand
avec
tu
trois
peux...
fois plus de monde.
Ouais. Mais tu peux regarder des gens dans les yeux. Enfin, c'est vrai que tu les vois. C'est ça qui est fou, c'est qu'une foule, malgré tout, bah, tu vois les yeux des gens, quoi. Et bon,
c'est
voilà,
beau.
C'était super beau. Franchement, bah oui, je pense que ça m'arrivera plus jamais. Mais peut-être si demain.
Demain, peut-être. Oui. Parce que qu'est-ce qui se passe demain?
Belle transition.
Autopromo.
Demain, je joue aux Impertinentes avec Fée. Donc un super bar qu'il faut vraiment découvrir. Donc c'est à 21h.
Féministe,
génial. Et du coup, ben voilà, c'est à Nantes demain. Mais on ne sera peut-être pas 350 000, parce que ça ne rentrera pas.
Non, mais bon. Et c'est quoi, tu peux nous le dire? Parce que toi, tu as quand même plusieurs formes, plusieurs formations, etc. C'est quoi demain?
Ben demain, c'est... Donc moi, ce que je vais faire, c'est jubiler. C'est mes 30 ans de carrière. Ben justement, il y a des morceaux des Suprêmes d'Inde, du coup. Parce que, ben voilà, moi, j'ai commencé à faire de la musique, ça fait 30 ans. Et donc, jubiler, c'est un espèce de panel de tout ce que... Tout, plein de morceaux que j'ai fait, voilà, depuis 30 ans. Et puis, Fée, c'est une super découverte. Qui fait de la spoken word, poésie, théâtre.
Philo.
Extraordinaire.
C'est top.
Extraordinaire.
On t'adore, Fée.
Ah.
Et on va peut-être... Fée sera sûrement là pour la prochaine émission. On en reparlera, mais qui sera sur le projet Grand Bruit, dont elle fait partie. Et donc, on les a cordialement invités. On ne sait pas encore qui sera là ou non, mais ce serait bien qu'elle soit là.
Cool. Et comment va Parcours Santé, qu'on a aussi déjà invité ici?
Super bien. On va sortir un EP, là, bientôt, donc vous serez certainement au courant, parce qu'il y a cinq titres qui vont sortir bientôt, là.
On diffusera.
Ah bah génial. Oui, vous serez les premiers à recevoir, évidemment.
Super.
Trop cool. Ouais.
Est-ce que Xem, toi, t'as des actus ou des choses à
partager?
À partager?
J'étais pas prête.
C'est vrai qu'on t'a pas dit qu'il allait avoir un petit temps d'actus, mais...
Est-ce qu'il y a des choses à... perso ou pas perso, hein.
Autopromo, venez à mes ateliers, j'ai un atelier à Rezé et si vous voulez apprendre la linogravure, ça me ferait trop plaisir de vous accueillir, donc n'hésitez pas à me contacter sur lamousson.podcast sur Instagram si vous ne trouvez pas sur internet. Voilà.
Quelle voix.
Ouais. Elle chuchote dans le micro,
c'est beau.
Ouais. J'adore la SMR.
Il nous reste un peu de temps si vous voulez, si on peut...
Incroyable.
Incroyable. Incroyable.
Hey, c'est dingue.
Il reste 3 minutes.
Bah, rendez-nous 2003. Moi, voilà.
Ouais, c'est vrai, ça donne envie. Ça donne envie d'y croire. C'est sûr qu'on les 20 années qu'on a passées là, c'est compliqué, quoi.
C'est un peu sec.
Ouais, c'est sec. C'est vrai.
Peut-être on peut mettre de l'espoir dans la génération alpha aussi.
Ouais.
Oui.
Ouais.
Peut-être.
Non, mais là, on est plein d'espoir. C'est dur, non mais c'est dur de garder le sourire. C'est vrai. Moi, tu vois, en écoutant ton édito, Julie, je me disais, oh là là, c'est quand même pessimiste tout ça. Mais en fait, c'est vrai que c'est dur de là en ce moment, c'est quand même pas facile après cette année.
Ouais, c'est vrai.
D'être dans un truc optimiste, mais ça va revenir. Hein. C'est parce que c'est des phases.
Voilà, c'est des phases. Comme tu dis, c'est sec dans le sens où moi, ce que je trouve important, c'est le vivant, et j'ai l'impression que le vivant est mort.
On peut pas finir l'émission sans ça, s'il vous plaît.
Bien mal, mais en fait, ça continue. Quand tu vois, il y a des bestioles. Puis même nous, on est vivants, quoi.
Donc, de moins en moins de bestioles, quand même. Hein.
Ouais, mais bon, ça va.
Ouais.
Nous, on est vivants, en fait. Donc, il faut peut-être continuer à regarder ce qui est vivant en nous et puis ce qui est vivant autour de nous.
Il y a plein de belles choses. Il faut écrire et lire de la fiction sur les conseils.
Oui. Non, mais moi, ce qui me fait y croire, c'est qu'il y a encore des projets à Sceaux, il y a encore des choses nouvelles.
Bien sûr,
même carrément. Si on étouffe, on manque de financement, que les gens sont en burn-out. Oui, c'est vrai. Mais il y a toujours des émissions radio féministes super.
D'ailleurs, une bonne nouvelle.
De la création sonore et de la linogravure, des super groupes comme Parcours Santé. Voilà.
Et même, il reste des places dans les détricoteuses, si vous voulez. C'est une bonne nouvelle, ça.
Ah,
oui, vous voulez participer. Il reste Mammouth. Mammouth en mai et Turquoise en juin.
Mettez-vous à la création sonore, ça rend vraiment heureux.
Ah ouais. Voilà.
Ça, c'est la vérité.
Non, mais en fait, oui, ça paraît des trucs de niche, mais c'est par les trucs de niche qu'on crée du collectif. En fait, c'est vrai que quand on me demande des fois ce que je fais dans la vie et que je raconte mes petits trucs, en fait, quand on me dit mais qui écoute ton émission ? Mais en fait, on s'en fout de ça. C'est juste le fait de faire ensemble et de kiffer ensemble. Et c'est ça, notre petit espoir. Enfin.
Et puis moi, je trouve que ce qui est important, c'est la marge. Et je crois que c'est la marche qui va nous sauver, en fait. Mmh. Pas le gros machin. Et peut-être, des fois, ce gros machin, il ne faut pas y mettre trop d'énergie, même si on est en résistance. Ouais. Pas y mettre trop d'énergie, parce que ça nous tue. C'est tellement gros. Donc, nous, la marge, c'est un truc intéressant, parce qu'on n'est pas beaucoup. On se recueille. Et puis ça nous donne de l'énergie. Ça ne nous en prend pas, au contraire.
Exactement.
Et moi, je trouve la force de la marge, c'est important.
Et ouais, et les sans agriculteurs, ils sont devenus 350 000.
Mais c'est ça. Ouais.
Donc en fait, la marge, à un moment, peut-être des fois... Ouais.
C'est ça qu'il faut garder, c'est la petite germe, quoi.
Mmh. Eh bien, ce sera le mot de la fin.
Mmh. Ah, c'est plus positif.
Ouais. Ouais, voilà, parce qu'on était vraiment down.
Et en plus, on termine avec un morceau qui s'appelle Revival. C'est toi, XM, qui l'a choisi. Est-ce que tu veux, t'as un truc à dire ou pas ? Moi, je ne connaissais pas. Comment s'appelle cette...
Alors, du coup, elle s'appelle Belle Sisowski et c'est une DJette qui fait un one-woman show en live. Et donc qui a sorti cette EP qui est de la musique électro avec plein d'instruments sud-est asiatiques. Voilà, c'est un mix de genres et j'aime beaucoup. Profitez cool. bien.
Et bien.
Merci, bonne année.
Merci surtout. Et bonne année surtout. À bientôt. Now I've got the